Si je vous dis qu'aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde, près de 35 000 enfants se retrouvent régulièrement pour apprendre la vie en groupe entre hommes et femmes, éduqués dans l'action, poussés à l'engagement et dans le respect de l'autre. Vous me croyez ? Et non, il ne s'agit pas de l'université d'été de l'organisation communiste libertaire, mais des éclaireuses et éclaireurs de France, les scouts laïcs comme on les appelle parfois. Et cette année, ça fait 50 ans que les branches masculines et féminines se sont réunies, ils ont fait une grande teuf en Aveyron, et pour en parler avec nous, on a Claire Bataillé. Salut Claire.
Salut.
On va en parler dans un instant, mais priorité à l'actualité oblige, on va faire avant tout une petite page sur ce qui se passe au Testé. Le Testé, on vous le rappelle, c'est ce projet de barrage dans le Tarn, projet de barrage somme toute assez inutile. Et le Testé, où il y a eu un appel à réoccupation qui a été lancé pour le 15 juillet. Sauf que, il semblerait que les promoteurs du projet ne veuillent pas attendre jusque-là, puisque on a appris ce matin que la police est venue, accompagnée du conseil général, ce matin vers 10h. Est arrivé et a procédé à l'expulsion du campement résiduel qui était resté sur place. Expulsion doublée d'abattage des arbres où se trouvaient les cabanes. Alors il n'y avait pas grand monde sur place, personne dans les cabanes, donc pas de blessés, pas de problème d'arrestation. Mais par contre, l'ensemble du campement a été détruit. Ensuite, les policiers ont barré la route avec des gravats, la route menant à la maison forestière qui est à côté de la zone humide du Testé. Et puis ils s'en sont allés à la fin de la journée. Alors selon la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, il semblerait que l'abattage serait pour des raisons de sécurité publique, étant donné que les cabanes pouvaient tomber sur la tête des passants. Effectivement, au milieu de la forêt, il y avait urgence. Mais cela n'était pas forcément de couper les arbres, car il y aurait peut-être eu d'autres moyens. En tout cas, c'est pas sans lien avec la prochaine mobilisation donc, qui démarre ce week-end du 15 août. Et puis avec également le grand week-end festif qui aura lieu, organisé par l'association du collectif Testé le week-end prochain. Alors il y aura Loire Vivante, il y aura des personnes qui viendront parler de l'aspect économique des grands projets inutiles, également d'autres militants contre les grands projets inutiles dans le Tarn. Voilà, donc c'est le collectif Testé qui organise ça les 23 et 24 août, pardon. Un week-end de débat, mais surtout de remobilisation avant la possible démarrage des travaux. Ce sera le 1er septembre. On vous attend en tout cas toutes et tous très nombreux au Testé, donc à partir de samedi. Samedi, rendez-vous vers 9h30 à l'entrée. Si vous ne pouvez pas passer les bagnoles, il y a des parkings un peu aux alentours. Et pour toutes les informations, vous vous rendez sur le site tant qu'il y aura des bouilles.wordpress.com. On suivra bien sûr toute cette affaire dès que le fauneur sera revenu. Notre camarade Fatima de Petit Papier ira faire du son d'ici peu, ne vous inquiétez pas.
Tant de forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées. Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier. Des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement, déboiser les forêts, déboiser des forêts, tant de forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées. Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier. Des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement. Déboiser les forêts, déboiser des forêts. Tant de forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées. Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier. Des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement. Déboiser les forêts, déboiser des forêts. Tant de forêts
arrachés à la terre et massacrés, achevés, ratatinés. Dans les forêts, sacrifiés pour la pâte à papier, des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement, du déboisement, du déboisement. Les bois et les forêts, les bois et les forêts, dans les forêts, dans les forêts, dans les forêts.
Catherine Sauvage, Temps de forêt. Bonjour Claire.
Bonjour.
Rebonjour. Alors, tu es éclaireuse et éclaireur de France, tu es animatrice, on dit respo et bénévole, et donc tu viens nous parler un petit peu plus de ce que c'est les éclés. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux nous préciser, parce que nous on a un peu dans l'image, les éclés c'est des scouts ultra-catholiques, tendance d'extrême droite, avec le foulard et le truc uniforme, c'est pas du tout ça.
C'est pas ça non.
Alors qu'est-ce que c'est ?
Les éclés, donc c'est une des 5 associations du scoutisme français, qui sont reconnues par le scoutisme français, qui donc appliquent ce qu'on appelle la méthode scout. Donc on fait du scoutisme, on est des scouts, mais ensuite chaque association a un peu ses propres valeurs et puis ses particularités. Voilà, et donc les éclaireuses et éclaireurs de France, on est l'association laïque, du scoutisme laïque. Et donc on a notamment 5 valeurs qui nous fondent, quoi, qui sont d'abord la laïcité, mais aussi l'éco-citoyenneté, la démocratie, la solidarité et la coéducation. C'est un peu
sacré programme, quoi.
Ouais.
Et alors du coup, ça fait maintenant 50 ans que les éclaireuses et éclaireurs sont mixtes, ce qui n'est pas le cas dans toutes les fédérations d'éclaireurs et éclaireuses, je crois.
Dans le scoutisme français, maintenant, c'est le cas partout, mais ça fait pour les scouts et guides de France, donc qui sont l'asso plutôt catholique, ça fait une dizaine d'années, je crois, seulement. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que c'est être un scout, en fait ? Parce que on ne connaît pas trop. Hein.
On a une image. Des images.
Bah, souvent déformée. Hein.
Bon, le scoutisme... C'est avant tout d'abord une méthode, c'est-à-dire que c'est une méthode éducative qui a été donc fondée par un certain Baden-Powell et qui avait... lui, il a été militaire de formation, il a été formateur de jeunes officiers. En fait, il s'est dit à un moment donné, moi, je suis en train de former des hommes pour faire la guerre et je pourrais peut-être former des enfants pour faire la paix. Et du coup, il a un peu transposé certaines choses qu'il avait apprises dans sa formation militaire pour en faire une formation pour les garçons à l'époque. Qui se base d'abord notamment développer l'autonomie des jeunes garçons à vivre dans la nature et à se débrouiller, à savoir apprendre à vivre dans la nature en petits groupes. Se sont rajoutés plusieurs, ce qu'on appelle les piliers de la méthode scout. En fait, il y a 7 grands piliers qui vont être, par exemple, la question de quelle relation on établit avec les enfants, entre les animateurs et les enfants. C'est quoi une relation éducative ? Qu'est-ce que c'est un cadre symbolique aussi ? Comment les éclés sont un cadre symbolique ? Quels sont les rituels, par exemple, qui peuvent exister dans notre association qui permettent aussi aux enfants de grandir et de trouver des repères dans leur progression personnelle aussi. Il y a cet aspect-là de... On prend chacun comme il est et on l'aide à grandir, quoi. Une des idées qui animait beaucoup Baden-Powell à l'époque, c'était de prendre... Le premier camp scout, en fait, il avait pris à moitié des garçons qui venaient de classes populaires des quartiers d'Angleterre et une autre partie plutôt des gens aisés, issus de la bourgeoisie, etc. Et de les mettre ensemble et de dire qu'en fait, tous les gamins peuvent réussir et au contraire, ils vont apprendre de leurs différences et que le scoutisme n'est pas réservé à une élite, pas du tout, quoi. Au contraire.
Et c'est le cas aujourd'hui, là où tu pratiques dans tes camps de scouts. Est-ce que tu retrouves toutes sortes de classes d'âge, classes sociales?
Oui et non, en fait ça dépend. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les écoles, ça fonctionne par groupe local.
D'accord.
Donc, que ce soit, soit ça correspond à des villes, soit à des, plus ou moins des régions, enfin des... voilà, il y a un groupe, par exemple, au Volvès, qui ne correspond pas
exactement... Ouais, des zones géographiques, voilà, mais des pas, pas administratives.
Ou dans Toulouse, il y a plusieurs groupes locaux, parce qu'il y a une forte demande. Mais, et du coup, c'est aussi les enfants qui habitent, qui sont du coin, quoi. Qui sont du coin, ou alors, voilà, qui, pour une raison ou d'une autre, ont des liens avec, avec ce coin-là. Donc, ça dépend, en fait. Ça dépend des coins.
Et alors, toi, tu fais partie de quel groupe ?
Alors, moi, cette année, j'étais au groupe Rosa Parks, qui correspond au quartier du Mirail, à Toulouse, à peu près, qui est un nouveau groupe qui s'est créé cette année. Donc, avec toute la problématique de démarrer un groupe local, donc de ne pas forcément avoir d'enfants qui sont là depuis longtemps, de ne pas forcément avoir de respo qui sont là depuis longtemps. Mais c'est aussi un projet de l'équipe régionale, notamment de se développer dans ces quartiers-là qui ne sont pas forcément... les plus favorisés, et d'essayer aussi de proposer le scoutisme à des enfants qui vivent là, et en fait d'ailleurs aussi, parce que du coup il y a aussi des enfants qui habitaient un peu dans Toulouse, qui ne trouvaient pas de groupe et clé, et qui sont venus.
Et du coup, comment ça se passe au quotidien? Donc en fait, vous vous réunissez une fois par mois, vous vous retrouvez, vous partez dans un bled de campagne, je crois que vous étiez allé dans le Tarn il n'y a pas longtemps.
En fait, l'idée, c'est ça, c'est que les éclés, c'est vraiment un projet sur l'année. C'est-à-dire que les gamins, on les suit toute l'année. C'est pas une colo l'été et c'est tout. C'est vraiment un projet... on suit leur évolution, quoi. Donc, on les... Après, ça dépend des respos qui sont là, parce qu'on est tous bénévoles, hein, aux éclés. Donc, du coup, ça dépend aussi des disponibilités. Mais en gros, c'est souvent ça, quoi. On se fait à peu près un week-end par mois avec les enfants. Et alors soit il y a des groupes qui ont de la chance d'avoir un local, voilà, ou avec un lieu où ils peuvent venir camper à l'année, etc. Et d'autres où du coup on trouve des lieux, que ce soit des mairies qui nous prêtent des lieux, voilà, ou des gens, des champs de particuliers, etc. Pour pouvoir passer un week-end à peu près tous les mois dans l'année pour construire aussi le projet, construire le camp d'été, qui est quand même le moment phare, quoi, parce que du coup on passe en général on passe 3 semaines avec les enfants, et on a vraiment le temps de faire des choses, quoi, en 3 semaines, et d'apprendre à se connaître, à vivre ensemble, etc. Donc
mais alors, c'est quoi la différence avec une colo classique, colonie de vacances, où tu te retrouves avec des monos et puis tu fais des activités, des sorties, qu'est-ce que c'est la différence par exemple avec ça?
Il y en a plein. la première différence, c'est que on est là, nous, on n'est pas payés, et on n'est pas là les enfants, ils sont pas là pour consommer, on n'est pas là pour leur vendre quelque chose. On est là pour vivre un truc ensemble, et surtout pour apprendre à, ouais, pour apprendre à vivre dans la nature et à développer son autonomie. Ce qui fait que on fait tout avec les enfants, et notamment la vie quotidienne, c'est-à-dire les tâches les plus basiques, quoi. C'est-à-dire faire la cuisine, faire la vaisselle, sortir les poubelles, laver les toilettes. Ça fait partie intégrante de la pédagogie scout, ça fait partie intégrante des services qu'on demande à faire aux enfants et sur lesquels on accompagne les enfants, parce qu'en fait c'est pas du tout évident quand t'as 6 ans, quand t'as 10 ans, quand t'as 15 ans, en fait, de savoir faire la cuisine, de savoir faire la vaisselle, c'est pas inné. Donc il y a aussi un accompagnement là-dessus. Et ensuite, évidemment qu'on fait des activités avec les enfants, qu'on fait des jeux, qu'on monte des projets, mais c'est... Et donc voilà, donc il y a effectivement des similarités. On est dans un espace de loisirs pour les enfants, mais un espace de loisirs éducatif où en fait on apprend à grandir et ensemble, quoi, dans un groupe, dans un collectif. Il y a, voilà, la particularité, c'est aussi par exemple l'organisation. Un des piliers du scoutisme, c'est la vie en petits groupes. C'est-à-dire qu'on considère que dans un petit groupe de 5, 6, 7, 8 enfants, on peut arriver à prendre des responsabilités, à trouver sa place, à pouvoir s'exprimer, etc. Donc en fait, on a des groupes plus importants, de 25, 30 gamins. Et donc on forme soit des équipages, enfin il y a des noms différents en fonction des tranches d'âge, mais par exemple, pour les 11-15, on forme des équipages de vie dans lesquels il y a des rôles qui sont définis, donc voilà, qui vont du coup pouvoir, bah, pouvoir trouver leur place et prendre responsabilité, quoi.
On va en parler plus en détail justement de l'éducation et de la co-éducation. Le mot te tient à cœur, je sais. Une petite pause musicale juste avant ça. Thomas Fersen, Bella Ciao, un chant qui peut parfois se chanter au coin d'un feu de camp.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Thomas Fersen, Bella Ciao sur Canal Sud. On continue à parler des éclaireuses et éclaireurs de France, les éclés pour les intimes. Mais juste avant de continuer, je voulais te demander, on vient de s'écouter une chanson, et j'ai l'impression que chez les éclés, chanter au coin du feu, chanter ensemble, se balader et chanter, c'est quelque chose qui est assez important entre adultes et enfants. Est-ce que tu peux nous dire un mot juste sur la place de la chanson ?
Bah, t'as déjà essayé de chanter au coin du feu ? C'est juste génial, j'ai envie de dire... Donc oui, c'est un truc qu'on aime faire et qui est, où tu sens le groupe qui est avec toi, où t'as des chansons qui sont aussi du patrimoine du scoutisme en général et du coup c'est dans une atmosphère avec les pins au-dessus de toi, le feu et enfin voilà, c'est juste des moments magiques quoi qu'on a envie de. Mais bon, j'imagine que il y en a plein de gens qui le font en dehors des éclés aussi.
heureusement, ça ne se
dit pas.
Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est une manière d'approcher les choses qui, somme toute, peut se faire un peu en général, quoi. Mm-hmm. Do it yourself, travailler en commun, tout ça. Ça peut se faire aussi en dehors de la forêt.
C'est pas mal.
Et justement, à propos des valeurs des éclés et du scoutisme, il y a un mot qui revient, qui est un peu, on va dire, théorique, c'est co-éducation. Alors j'aimerais que tu me précises un peu de quoi il s'agit.
Bah, c'est le mot de l'année aux éclés, parce que du coup, comme tu l'as dit en intro, là, ça fait 50 ans cette année que la branche... Enfin, les éclaireurs de France et la section neutre des éclaireuses de France, donc la branche féminine, ont fusionné.
Neutre, c'est pour pas catholique ni protestant. Voilà.
Ouais. Et puis du coup, donc c'est vrai que c'est un mot qui nous a pas mal occupé parce qu'en fait, la coéducation historiquement, ça veut dire l'éducation des filles et des garçons ensemble. Donc c'est un mot qui est dans nos textes fondateurs et tout ça. Et donc cette année, on en a beaucoup parlé, parce qu'on, du coup, on a aussi beaucoup réfléchi sur ce que c'est. Et nous, en tout cas, aux éclés, on a un peu l'impression que ça a évolué et que c'est trop faible de parler uniquement de coéducation pour parler juste de la question de la mixité, qui, par ailleurs, est très importante et y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais du coup, pour nous, la coéducation, ça veut aussi dire la question de l'interculturel, ça veut aussi dire la question notre rapport au handicap, ça veut aussi dire la question de l'intergénérationnel. Et du coup, c'est un mot compliqué parce qu'il y a plein de sens derrière. Et nous, on a essayé, en tout cas cette année, en région Midi-Pyrénées. Ça s'est fait dans d'autres régions, notamment en Aquitaine. Mais nous, en Midi-Pyrénées, du coup, on a organisé Tangram, qui est le nom donc, du rassemblement et puis du projet aussi qui a eu lieu toute cette année, de réfléchir à la coéducation avec les enfants aussi, de leur faire, de leur expliquer ce que, c'est que c'était ce mot, qu'est-ce que ça voulait dire, et de, du coup de retrouver, de faire se rassembler tous les camps de la région dans un endroit à Bécourt cette année. Pour justement passer une semaine ensemble. On a passé une semaine avec 400 enfants et près de 200 bénévoles pour faire vivre ce rassemblement, pour justement un peu vivre la coéducation, quoi.
Et justement, Bécourt, c'est un lieu qui n'est pas innocent, puisque c'est un lieu qui est acheté, et une commune, à un mot on va dire, qui a été acheté par les éclaireuses et éclaireurs de France dans les années 80, et qui ont retapé un peu le hameau, et puis qui reste hameau de Bécourt, éclaireuses et éclaireurs de France. Puis on a toujours ce panneau à l'entrée qui me fait bien rire, avec le panneau 20 km/h et enfants en liberté, attention.
Faites attention.
Et tu peux nous dire 2-3 petits mots sur ce hameau toi qui as été, à quoi ça ressemble?
C'est super en fait, ouais, c'est un très grand espace, il y a du coup plusieurs maisons en pierre donc qui effectivement ont été au fur et à mesure des années retapées par les éclés, et puis en fait il y a de grands espaces à la fois boisés, à la fois des plaines, des petits chemins secrets, enfin c'est un paradis, et c'est vrai que c'est un endroit, c'est un très grand endroit. Très grand endroit.
Un endroit très grand.
Et du coup, c'est vrai qu'il a l'habitude d'accueillir des grands rassemblements divers et variés, et notamment aux Éclés. On possède quelques terrains comme ça en France, et ça nous sert bien. Ça nous sert bien.
Et alors justement, pour revenir sur le thème de la coéducation, tu disais qu'il y aurait beaucoup à dire sur la mixité homme-femme. Oui. Ben, j'aimerais qu'on y revienne un peu parce que c'est quand même une question importante. Comment ça se passe, mine de rien, de travailler avec des gamins qui sont confrontés au quotidien à souvent une éducation sexuée, le garçon avec les travaux publics et les voitures et la fille avec les poupées, pour donner l'exemple malheureusement pas si caricatural. Comment ça se passe justement chez les éclés de ce côté-là?
C'est justement l'endroit où on se retrouve tous ensemble dans la nature, et en tout cas on éduque au fait que le partage des tâches soit pas fait en fonction du genre, que effectivement on fait des constructions en bois, on construit des tables, on essaye de construire en fait notre lieu de vie pendant un camp. Et les filles participent au même titre que les garçons à aller chercher des rondins, des perches, des tout ce qu'on veut, à scier du bois. Et pendant ce temps, les garçons font aussi la vaisselle et font aussi tous les services. On a une organisation qui, effectivement, n'est pas genrée.
Et comment ils le vivent, les gamins, justement? Parce que ça doit aller peut-être, pour certains, leur changer de la maison.
En fait on sent l'évolution, quoi. On sent les premiers jours, on se dit non mais moi je vais pas faire la vaisselle, et puis ça devient une habitude, ça devient normal en fait. C'est ça qui est génial, c'est que on passe 3 semaines ensemble, et à la fin des 3 semaines, ça paraît logique de faire son service vaisselle, ça paraît logique, c'est faire sa part pour la collectivité, et c'est ça qu'on essaye de transmettre, quoi, vraiment.
Et après, cette histoire de coéducation, elle m'évoque aussi une autre notion souvent très théorisée, mais c'est l'éducation populaire. Est-ce que c'est... Parce que l'éducation populaire, souvent, ça parle des jeunes adultes et des adultes. Est-ce que c'est pas un peu la même chose, là, que vous faites avec les enfants?
Carrément, les Éclés se revendiquent comme étant une association d'éducation populaire. Et effectivement, hein, la question, c'est comment on apprend de tout un chacun, comment on crée... aussi le contexte qui fait que la parole de chacun puisse être libérée, qu'on puisse prendre en compte aussi ce que nous renvoient les enfants et travailler avec eux pour co-construire les projets. On est aussi beaucoup dans la construction de projets avec les enfants, et pas à leur imposer voilà, des activités dont ils n'auraient pas envie ou alors dont ils se contenteraient d'être des acteurs passifs.
Et ça marche.
C'est pas facile parce que effectivement il y a tout un contexte sociétal qui pousse pas à ça, donc ça déstabilise et ça prend du temps. Enfin, c'est pareil, il faut aussi l'équipe d'animation, elle est importante aussi. On a besoin d'avoir des respos qui s'entendent bien, qui fonctionnent ensemble, etc. Donc forcément c'est aussi c'est dépendant de plein de choses comme ça, mais quand ça marche en fait. Enfin, si on arrive à... Il y a eu des super beaux projets, quoi. Surtout, plus les enfants sont grands, plus... Enfin, voilà, un groupe de Toulouse, ils sont partis en Thaïlande pour fabriquer des jeux et faire une ludothèque itinérante. Il y a eu plein de superbes projets qui ont été réalisés et qui partent des idées des enfants, quoi.
Et toi, tu es RESPO, donc ouais. Les RESPO, c'est les adultes, c'est ça, c'est à partir de 18 ans.
RESPO, c'est l'abréviation de responsable d'animation, donc c'est l'équivalent d'animateur. Ouais.
Et est-ce que tu as fait les éclés avant de devenir RESPO?
J'aurais bien aimé, mais non.
Donc on peut devenir RESPO sans...
Ouais, bien d'accord. Sûr.
Parce que j'ai remarqué quand même il y a une continuité, c'est-à-dire que les éclés, tu rentres, alors ça commence à 6 ans.
Ouais, les lutins.
Voilà, et puis tu passes en gros de catégorie en catégorie. Après, il y a les louveteaux de 8 à 11 ans, les éclaireuses, éclaireurs de 11 à 15, les aînés de 15 à 18, et enfin les respos un peu plus tard. Et les gamins qui suivent ça, qui ont commencé tôt, est-ce qu'ils restent, ils suivent toute leur enfance en fait?
Ça dépend. C'est y en a qui sont là effectivement depuis lutin. Il y en a qui arrivent en cours de route. Il y en a qui s'en vont en cours de route. Il y en a qui reviennent. Après, par rapport aux aînés, en fait, une fois qu'on est aîné, il y en a qui partent parce que parfois ils font des études ailleurs. Donc voilà, ils se séparent aussi. Enfin, ils doivent partir de chez eux. Il y en a qui deviennent... on n'est pas forcément animateur une fois qu'on n'est plus aîné. On peut être aussi... on a les JAE, c'est ce qui veut dire les jeunes adultes éclés. et qui, du coup, qui ont plus besoin, du coup, qui sont majeurs et qui ont plus besoin d'avoir des animateurs avec eux, mais qui, du coup, montent aussi des projets, différents projets, sans être animateur pour des enfants, quoi. C'est aussi ça, on peut continuer à vivre le scoutisme sans être animateur aussi. Et donc voilà, il y a une certaine partie qui devient RESPO, ouais. Et puis en fait, il y en a aussi quand même pas mal d'autres qui arrivent comme moi et qui n'étaient pas forcément éclés et qui découvrent l'animation par les éclés et qui y trouvent leur compte.
On marque une petite pause et puis on continue de parler justement du rôle des RESPO et tiens, de l'engagement. Bah tiens, engagez-vous les malpolis.
Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise, il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons, et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme
et de sa femme.
Ensemble agissons dans le calme. Dignement, mais fermement.
Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi. D'accord.
Organisons aucun concert de soutien contre la misère. La misère d'inspiration, que les chanteurs ont en la matière, qui chante les révolutions, si romantiques d'avant-guerre. Peut-être qu'on pourrait acheter des fleurs blanches pour les innocents qui meurent en silence.
Et sur un pont au-dessus de la Loire, jeter en symbole dans l'eau nos fleurs porteuses d'espoir, là à la barre des bourreaux. Dignement, mais fermement,
se peindre en noir contre les crimes racistes et puis contre les mines antipersonnelles, sauter à cloche-pied devant l'Elysée,
puis offrir de la vaseline en tube à toutes les mouches qu'on entube. Wap wap tip 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 tip, 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 wap wap tip 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 tip.
Et pourtant, quand vient le temps qui désespère de voir comment les choses vont, heureusement qu'il y a mieux à faire que de voter aux élections des petites choses, des petites misères, et pas seulement des chansons, des petites choses, des petites misères, et pas seulement des chansons, chacun dans son coin à sa manière, pour faire que la vie soit moins con.
Les Malpolis sur Canal Sud 92.2, canalsud.net. Nous sommes toujours avec Claire, éclaireuse de France, Respo éclaireuse, s'il vous plaît. Et justement, engagez-vous, rengagez-vous. Est-ce que vous saviez que parmi les anciens éclés, il y avait Julien Clerc, Jean-Jacques Goldman, Charles-Élie Couture, mais aussi Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Léo Lagrange, Jean Moulin, des gens comme ça. Et du coup, bah, je me demandais, les éclés, est-ce que y a pas une certaine forme d'engagement derrière, un peu plus loin que simplement s'amuser à faire des cabanes dans la forêt ?
Si, si, je pense qu'on peut le dire très clairement.
Alors du coup, lequel ? En quoi c'est ? Qu'est-ce que ça amène comme dimension politique ?
Bah, les éclés, de toute façon, sont une association qui prenne des positions, hein, qui prennent des positions politiques. Je pense que l'éducation, de toute façon, elle est politique, et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants, c'est politique déjà. Et l'engagement, il est d'abord dans tous les bénévoles qui s'engagent, que ce soit des respos, que ce soit des parents qui s'engagent aussi pour aider les groupes à fonctionner, que ce soit des gens qui sont pas forcément animateurs, mais qui donnent de leur temps pour, voilà, pour être, par exemple, responsable du matériel, pour trouver des lieux, pour organiser divers événements. Il y a un vrai, y a une vraie communauté éclée qui s'engage. Et voilà, dans l'idée, je t'ai cité les cinq valeurs des éclés tout à l'heure. On fait pas n'importe quoi ici, quoi. Enfin, on fait pas.
C'est-à-dire. Ouais.
Le projet de société que défendent les éclés, c'est un projet humaniste, c'est un projet où voilà, on respecte à la fois les autres qui sont autour de nous, on respecte l'environnement qu'on a autour de nous, et on apprend à vivre. À vivre ensemble, ça a l'air de rien de vivre ensemble, mais en fait, c'est un vaste programme. Et y a la question, ouais, de la démocratie aussi, on en a pas parlé, mais...
Oui, c'est un élément important.
Ouais, qui est un élément important.
Tu peux expliquer un peu comment vous vivez la démocratie, y compris au quotidien dans les camps ?
C'est ça. Bah, justement, j'allais parler au quotidien dans les camps, on a la pratique des conseils. Donc avec les enfants, qu'on fait selon les groupes. Enfin, moi, j'ai l'habitude de le faire assez quotidiennement. Et justement, d'avoir ce temps de parole et ce temps cet espace pour les enfants pour nous renvoyer des choses, pour se renvoyer des choses entre eux, dans le cadre bienveillant aussi qu'on sécurise, nous, les respos. Et il y a souvent beaucoup de choses qui émergent. Quand on offre la parole aux enfants, ils ont plein de choses à dire. Ils ont leur avis sur comment ça se passe. Et en fait, le prendre en compte, c'est aussi comme ça qu'on avance, tout en posant effectivement des règles de sécurité pour chacun. Et nous, c'est le cadre qu'on garantit, quoi.
C'est-à-dire, juste pour voir de quoi tu parles, c'est en gros que c'est un endroit protégé. C'est de quoi il s'agit, ces règles de sécurité,
Non, mais dans le sens, nous, le cadre qu'on pose, il est avant tout là pour dire qu'effectivement, les comportements qui sont dangereux pour soi, pour les autres, des comportements qui respecteraient pas le matériel ou où l'environnement qui est autour de nous sont interdits et nous, on va faire en sorte qu'ils ne se produisent pas et on sanctionnera s'il y a besoin de sanctionner.
Bon, clair, un gamin ne lance pas un bâton pointu pendant une réunion du conseil,
par exemple,
ni autrement.
Par exemple.
Et
mais à part ça...
Comment
en fait,
vous gérez ça, justement, par exemple, quand il y a une attitude qui peut être violente? Comment vous le gérez?
La base, c'est qu'effectivement, déjà, on sécurise le lieu, les enfants, etc. Donc si y a un comportement violent, on écarte l'enfant qui est violent ou alors on enlève l'objet qui peut être violent. Et ensuite, c'est la question de la réparation. En fait, la sanction, elle est là. Elle n'est pas là pour humilier. Elle n'est pas là être. Enfin, c'est pas quelque chose de méchant.
De punitif.
Ouais, de punitif, exactement. Et la question, c'est comment l'enfant, il répare ce qu'il a fait, s'il a cassé quelque chose, s'il a été méchant, comment il répare ce qu'il a fait pour se réintégrer dans le groupe. L'objectif, en fait, c'est que le groupe, il fonctionne et que chaque enfant, il trouve sa place. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce qui peut perturber le groupe ou ce qui peut l'empêcher de fonctionner, on le régule et on le... Donc c'est vraiment dans cet esprit-là. Et tout en partant aussi du principe qu'un enfant, s'il fait quelque chose de mal, c'est souvent parce que en fait il a des besoins qui sont pas auxquels on répond pas. Et donc avant de lui crier dessus pour rien, faut aussi comprendre pourquoi il a agi comme ça.
Et vous y arrivez ça? Parce que c'est pas facile.
C'est pas facile. Je pense que les respos s'éduquent autant que les enfants en camp.
C'est pour ça que vous y retournez en fait.
C'est pour ça qu'on y retourne.
Et du coup, pour revenir sur la dimension politique de tout ça, toi, ouais. Quel sens ça a pour toi par rapport à tes valeurs, à tes convictions, d'aller oser clés?
Moi, j'y retrouve d'abord la notion de donner les moyens d'être autonome et de développer son autonomie, mais que ce soit intellectuelle, physique, matérielle, enfin... Et dans un monde où justement on ne donne plus la possibilité de rien et on nous déconnecte de tout et notamment de tous les savoir-faire, on n'est plus capable de rien faire si ce n'est d'acheter des plats déjà préparés ou des objets déjà préparés. Là, on se réapproprie ce que c'est que de se fabriquer une table, machin, de se faire la cuisine, des choses qui peuvent paraître basiques mais dont en fait...
Et qui peuvent être très utiles, notamment quand on va occuper une zone humide et qu'on doit construire des cabanes.
Par exemple, mais pas que, en fait, mais oui.
C'est un exemple.
Oui, ensuite, il y a toute la dimension s'éduquer ensemble dans la nature. En fait, c'est ce qu'on devrait apprendre à tous les gamins. En tout cas, c'est la possibilité qu'on devrait donner à tout le monde. Parce que je considère qu'on a besoin d'une société où les gens savent se parler, où les gens comprennent comment ça fonctionne un groupe, où les gens comprennent aussi dans quel milieu on vit, de quoi on dépend pour vivre, et savoir le respecter, le connaître aussi, savoir... parce qu'en fait, on est très loin, surtout que... Voilà, on est très loin des forêts, on est très loin de la nature, alors qu'on en a besoin. Pour moi, les éclés, c'est vraiment un espace éducatif de premier plan, quoi, en fait, où on travaille toutes sortes de choses. Voilà, la capacité de prendre des responsabilités, la capacité de créer des choses ensemble, la capacité de jouer, de s'amuser aussi, de créer des liens. Et je me reconnais dans les valeurs qui sont défendues, je me reconnais dans le cadre... Et c'est ça que j'ai envie de porter, quoi. J'ai envie de... Voilà.
Est-ce que... c'est un panorama assez incroyable, des éclés.
Incroyable.
Ah bah, venant de toi, de toute façon. Mais je voulais savoir quand même, est-ce que c'est... Tu sens que ce que t'apprends là-bas, ce que les gamins apprennent là-bas, ils arrivent à l'utiliser, le transposer et le pratiquer en dehors des éclés? Ou est-ce que c'est comme souvent, ces expériences-là, ça reste un cadre restreint, cadré, organisé, sur un temps précis? Et puis dès que tu pars des éclés, tu reviens dans le monde réel, entre guillemets, et du coup, tu retrouves plus, tu t'as plus tout ça. Et qu'est-ce que t'en penses de cette idée-là?
Je pense que c'est pas tout noir, pas tout blanc. C'est-à-dire que je pense que...
Non mais t'as raison.
Oui, je pense que les éclés, c'est un cadre, c'est un monde. Enfin, un camp, voilà, t'as pas ton téléphone portable, t'as pas internet, t'es un peu coupé et ça fait du bien. Et ça, c'est ce que les gamins aussi nous renvoient, quoi. Ils nous disent, voilà, c'est clair que je suis en camp et je suis dans un autre monde. Donc je pense qu'effectivement, ils se font aussi rattraper par la réalité quand ils rentrent. Cela dit, on est... je pense que ce qu'on... On est fait aussi de tout ce qu'on vit, quoi. Et donc, toutes les compétences sociales, relationnelles, les petits trucs qu'on peut apprendre. Je pense même pas, voilà, à savoir se faire la cuisine. C'est sûrement que ça les aide plus tard quand ils vont être étudiants et qu'ils vont se trouver leur premier appart. Et oui, certainement que peut-être ceux des éclés ou des scouts, de manière générale, seront plus se débrouiller. Et encore que, je sais pas, mais en tout cas... On sort jamais indemne d'un camp éclé, en fait. Qu'on soit respo ou enfant, d'ailleurs. Mais on apprend des autres, on vit des choses voilà, qui vont aussi orienter nos choix futurs. Donc je pense que c'est pas forcément une cause à effet droite, rectiligne, je sais pas comment dire. Mais oui,
direct,
je pense que...
Ouais. C'est peut-être un effet indirect
mais
sur le
impacte.
Temps.
Ça impacte, ouais.
On a encore un quart d'heure devant nous, mais on a encore pas mal de choses à dire. Je voudrais savoir un truc. On parlait de politique tout à l'heure. Tu nous parlais de l'autonomie, tu nous parlais de la vie en groupe. Et je t'évoquais l'exemple de la ZAD du testé, parce que j'en parlais au début. Mais c'est vrai que ce que tu présentes là, dans un cadre entre adultes et enfants, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu retrouver récemment dans les dynamiques des ZAD à Notre-Dame-des-Landes, également dans... Alors, c'est pas avec la nature, mais en milieu squat. Mais aussi dans les ZAD, t'as en plus ce côté où on refait avec la nature, on réapprend. Alors, il y a un objet politique, il y a une opposition à un projet, il y a quelque chose de, voilà, plus politisé. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a une parenté entre les deux. Qu'est-ce que... Et du coup, est-ce que les éclés sont des libertaires non déclarés?
Certains, peut-être. Certains sont déclarés. je pense qu'en tout cas, y a une conscience de, ouais, du besoin de retrouver du collectif et de retrouver d'où on vient, du milieu naturel d'où on vient. De plus être dans ces espèces de... Enfin, dans cette artificialité permanente. Et je pense que nous, on n'a jamais perdu ça. Enfin, les éclés n'ont jamais perdu ça parce que c'était une de leurs marques de fabrique, d'être dans la nature. Et je pense que la prise de conscience, du coup, elle est aussi... dans la société, elle commence à émerger aussi. Donc, les parentés, elles sont peut-être là. Après, on est une association d'éducation populaire, quoi. Donc, c'est...
Ça veut déjà tout dire.
Ça dit tout. Mais voilà, mais en même temps, on est là, nous, on est là pour les enfants et on n'est pas dans un autre projet, on n'est pas dans un... Et on n'est certainement pas dans l'inculcation de dogmes avec les enfants.
L'endoctrinement, c'est
ouais,
pas ça.
C'est vraiment pas du tout. Parce que je pense que, d'ailleurs, les respos... Enfin... sont pas forcément aussi tous dans ce projet-là. On arrive aussi parce qu'on est animateur et qu'on aime les enfants et l'engagement il se forme aussi sur le terrain, quoi. Donc tout le monde est pas forcément là pour des raisons politiques ou éthiques ou mais aussi parce que on trouve du sens dans ce qu'on fait sans même peut-être se l'expliquer pourquoi. Mais voilà, mais après c'est des expériences qui valent le coup d'être vécues, quoi.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Avant la musique, non.
Alors on écoute Lynn Renault, La cabane au Canada.
Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. La porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige, elle attend le retour du printemps. ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi, la vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs, toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis née. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi, nous rallumerons le feu. Nous n'aurons pas de voisins, parfois seul un vieil indien entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages, je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, tant que tu y resteras, ce sera le paradis, mon chéri. À quoi bon chercher ailleurs, je sais bien que le bonheur, il est là, dans ma cabane au Canada.
Mais non, le bonheur, il est sur Canal Sud, votre radio. Et nous sommes toujours avec Claire, notre éclaireuse de France, Respo, comme on les appelle, responsable d'animation, qui nous parle justement des éclairs, de ce mouvement, l'éducation populaire et de l'autonomie. Et tu voulais nous parler justement d'une des particularités des éclairs, mais des scouts en général, c'est que l'autonomie, c'est pas seulement apprendre aux gamins à se débrouiller entouré d'adultes, c'est parfois aussi tout seul, entre gamins, être autonome. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ?
Ouais, je voulais vous parler de ce qu'on appelle les explos, et en fait qui sont effectivement une pratique qui est notamment développée dans le scoutisme et qui nous tient à cœur parce que c'est un moment où, comme je vous le disais, en équipage, donc en petits groupes de 7-8 enfants, avec chacun des responsabilités définies, avec des tâches, par exemple trésorier, par exemple intendant, par exemple responsable du matériel. Et donc les enfants, en fait, donc entre là, c'est une pratique qui correspond à la tranche d'âge des éclés, donc des 11-15, 11-14. Et l'idée, c'est qu'on va préparer avec eux cet explo, donc c'est-à-dire ces 3 jours d'itinérance en autonomie, avec un projet aussi derrière, c'est-à-dire qu'ils partent pas juste pour partir, ils partent pour aller faire quelque chose. Qu'ils ont décidé eux-mêmes, qu'on a co-construit avec eux. Ça peut être aller visiter un bâtiment, un château, un musée qu'il y a dans le coin. Ça peut être aller recueillir des histoires des habitants. Ça peut être aller faire une certaine balade, observer la faune et la flore. Enfin, il y a une multitude de possibilités. Mais l'idée, c'est qu'ils partent. Ils ont vécu, donc en général c'est c'est après la moitié du camp, sur les 3 semaines. Donc ils ont bien commencé à vivre en équipage, donc où ils se faisaient à manger en équipage, ils dorment en équipage. Ils apprennent à se connaître vraiment en petits groupes, au sein du grand groupe. Et du coup, voilà, ensuite chaque équipage va construire son projet et partir pendant ces 3 jours. Et c'est vrai que c'est des moments, pour tous les anciens éclés du coup qui l'ont vécu, que moi avec qui j'ai pu discuter, c'est vraiment des moments très forts dans leurs souvenirs, quoi. Où forcément ils sont livrés à eux-mêmes aussi, où ils se rapprochent, où voilà, il se passe des trucs souvent très drôles. c'est un truc qui se fait pas vraiment ailleurs, quoi, parce qu'on est dans une société où on peut plus faire grand chose parce que on risquerait il y a un danger à tous les coins de rue et on est dans une espèce de peur sécuritaire qui aide pas à l'éducation des gamins en fait, parce qu'on a besoin, de liberté, on a besoin d'expérimenter des choses. Et du coup, c'est vrai que nous, on a cette chance de par le fait d'être une association de scoutisme, et donc voilà, il y a une espèce de confiance dans notre, en tout cas dans notre manière d'assurer la sécurité de ces moments-là et de les encadrer. Et c'est vrai que du coup, on maintient cette pratique-là, pas à n'importe quel prix, hein. C'est-à-dire que attention, on laisse pas partir tous les gamins en explo, enfin, on a aussi des critères, il faut que ça se passe bien dans le groupe, il faut qu'on voit qu'il y en a pas un qui va rester derrière et que les autres vont partir sans s'en occuper. Voilà, on a des garanties, mais c'est vrai qu'on les encourage à le faire parce que ça les... Ouais, c'est des moments d'intense expérience.
Puis j'imagine que les gamins, autant d'habitude, quand on les encadre trop, ils ont envie de s'échapper, ouais, et de se balader, autant là on leur dit, bah tu peux, vas-y, vous y allez en groupe, c'est cadré, c'est machin. Ça, je pense qu'ils doivent pas trop moufter non plus, parce qu'ils disent, putain, il y a un truc là, assez génial, quoi.
Ouais, bah ils le demandent, hein, de toute façon, quand est-ce qu'on part en explo, et machin, c'est un truc... Ouais, c'est un truc...
Un grand moment, quoi.
Ouais, un gros moment de la vie d'un éclairé.
Et du coup, je perds mon fil. Oui, du coup, comment faire pour devenir éclé? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Tous les enfants de tous les âges peuvent y aller, même les jeunes adultes. Comment ça se passe un peu pour rentrer dans la confrérie?
Dans la confrérie. Les éclés ne sont pas une secte.
Il faut le dire.
Il faut le préciser. Ben à partir de 6 ans, effectivement, tous les enfants sont les bienvenus. L'idée, c'est de trouver le groupe local le plus proche de chez soi. Donc, il y en a 22 en région Midi-Pyrénées.
Ah oui, quand même.
Et ouais, on est une grosse région dans les éclés. Et donc voilà, de se rapprocher de ce groupe et puis voilà, de venir essayer un week-end, de s'engager sur l'année. C'est une association, donc comme toute association, il y a une cotisation à payer et ensuite c'est parti, quoi.
Qui a un montant assez réduit.
Qui a un montant En fait, ça dépend de la politique tarifaire des groupes locaux, parce que encore une fois, c'est une association nationale avec des échelons régionaux, mais en fait le...
Une fédération, quoi. Ou chaque
non,
groupe
c'est
local...
vraiment une association nationale, c'est pas une fédération.
Ah d'accord.
Mais par contre, effectivement, au sein de chaque région, les groupes locaux sont assez autonomes dans leur manière, voilà, dans les prix qu'ils fixent, les prix des camps, c'est les groupes qui les fixent, les prix de l'adhésion, les prix des week-ends, parce que donc, du coup, il y a des groupes qui font payer les week-ends aussi, pour ne serait-ce que pour acheter la nourriture qu'on va partager. Voilà.
Mais par rapport à un camp de vacances d'une semaine qui doit coûter 800 euros, chose comme ça, j'imagine que c'est on n'est pas
cher.
Du tout là-dedans, quoi.
Ouais, bah forcément, bah, les animateurs sont pas payés, donc.
Déjà, c'est sûr que ça réduit.
Ça aide, mais oui, donc a priori on est bien moins cher que les colos en dur, etc. Et voilà, et donc après on organise au mois d'août, on organise en fait des séjours ouverts. Où on invite justement tous les enfants qui sont pas éclés et qui aimeraient un peu découvrir ce que c'est que les éclés avant peut-être de s'engager à l'année, de venir essayer sur 10 jours. Moi j'en reviens juste d'un en fait. Et il y a la deuxième session qui est en train de commencer. Et donc voilà, donc c'est des enfants qui connaissent pas le scoutisme, donc on sent aussi la différence. Et voilà, c'est voilà, pour leur faire découvrir.
Puis c'est bien aussi de ne pas avoir que des gamins qui sont habitués au truc pour soi-même réapprendre à faire le truc.
Ah, c'est clair. Et voilà, et puis après, il y a de la place pour tous les gens qui ont envie de s'investir bénévolement, que ce soit voilà, à la région, sur les projets régionaux, sur les... On organise des formations, on organise un célèbre mini-camp froissartage, juste pour les respos. Mais qu'est-ce que c'est que le froissartage ? C'est la technique de construction, en fait, d'objets en bois, non, je sais pas comment dire, de construction en bois, en fait, qui n'utilise pas de clous, mais seulement de la ficelle ou alors du bois, et pour faire toutes sortes de choses.
Quoi.
Ouais. Et donc c'est une des techniques traditionnelles, voilà, des scouts. Et donc là, ça fait 2 ans qu'on organise ça pour les respos, parce que c'est aussi un moment où on se retrouve sans enfant, où on s'apprend des techniques, où on passe du temps ensemble aussi, où on crée du lien et on crée aussi de la dynamique pour ensuite être là sur les groupes, parce que on fait ça aussi parce qu'il y a une ambiance conviviale et qu'on a envie d'être là, quoi. On fait pas ça...
Oui, c'est pas de l'exploitation bénévole avec un caporal derrière, quoi. C'est où on prend quand même certainement, je pense, pas mal de plaisir. En tout cas, vu ton sourire dans toutes les missions, ça a l'air assez sympa. Et du coup, à Toulouse, quel groupe local on peut contacter?
Alors, moi, je vous conseille Rosa Parks, non pas parce que je suis respo Rosa Parks, mais parce que effectivement, c'est le groupe toulousain qui a encore de la place, parce qu'on a des groupes toulousains qui sont bien chargés, parce qu'ils existent aussi depuis longtemps et que forcément ils sont plus connus. Mais de toute façon, de manière générale, il suffit d'appeler la permanence des Éclés. On a une permanence à Toulouse et une permanence à Albi. Parce qu'on a pas mal de groupes, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron, globalement, c'est eux qui, c'est les départements qui ont le plus de groupes locaux dans la région. Et voilà, donc il suffit de les appeler et puis ils vont vous rediriger vers le groupe le plus proche de chez vous. Et voilà, et l'intérêt, enfin je le redis, mais l'intérêt c'est vraiment que les enfants ils soient là à l'année et qu'ils fassent un projet sur du long terme, quoi. Encore une fois, on n'est pas dans de la consommation d'activité, on est sur un projet, sur plusieurs années. Et pareil, on est une association de bénévoles, on a besoin que les parents ils s'impliquent aussi. Parce que on fait ça pour l'éducation de leurs enfants. Et en fait, l'idée c'est aussi que l'éducation elle se fait. Elle se fait avec tout le monde, tout le temps, partout, et qu'on a, on a besoin de tout le monde pour faire vivre le projet des Éclés. Et n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et donc, pour plus d'infos, la permanence, donc...
Ouais, la permanence, j'ai pas le numéro, mais le site internet, c'est midipi.éclés.fr.
Éclés, ECLES.fr, et puis éclaireur, éclaireuse de France, c'est EEDF.fr, le site national.
Le site national, voilà.
Merci beaucoup, Claire.
De rien.
Écoute... Que les Éclés éclairent ton chemin et celle des
et
enfants
aussi, ouais.
et moins enfants des auditeurs de Canal Sud.
Avis à la population, au pays de l'empereur, tomate au ketchup. Les enfants sont roi et ils font la loi. Tour nicotine, tour nicoton. C'est l'année zéro de la rébellion. L'heure de la révolte a enfin sonné. L'état de l'enfant loi est partout proclamé.
Uno, deux, tres, cuatro.
La paix capitale pour le sourire en général et la démission.
Vous avez vraiment envie qu'ils ressemblent à ça, vos gamins, hein, qui poursuivent les adultes dans les villes? Non, bah écoutez, hein, foutez-les aux éclés, foutez-les où vous voulez. Et puis pour les adultes qui s'ennuient, on rappelle que l'AZAD du Testé appelle à réoccupation. Ce sera donc à partir de samedi 15 août, ce samedi, à partir de 9h30. Et puis jusqu'à la fin du mois d'août, il y aura besoin de beaucoup, beaucoup de monde sur place. Ça commence déjà à être un peu compliqué, étant donné l'abattage de quelques arbres, la destruction des cabanes qui a eu lieu ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, car ensemble, tout devient possible.